Bienvenue sur
Racisme.
Des mots sur les mots.
Un podcast créé par la section lilloise de la LDH. Chaque année en France, au moins 1 million de personnes sont victimes de racisme. Seuls 3% portent plainte. Ainsi, la LDH a souhaité redonner la parole aux concernés. Pour ce faire, nous avons parcouru le Nord afin de recueillir des témoignages anonymes et fait appel à des sociologues, des historiens, des juristes et des militants dans le but d'inscrire le vécu individuel dans une réalité collective. Aujourd'hui, nous vous présentons l'épisode « Au hasard, ça tombe toujours sur moi », dédié au racisme dans les relations avec les forces de l'ordre, notamment à travers les pratiques du contrôle au faciès. La thématique est particulièrement préoccupante, car elle n'est pas prise en compte par toute une partie du champ politique et médiatique. Les discriminations liées à l'origine et les violences qui en découlent ne sont pas des cas isolés, mais tout un système qu'il faut traiter comme tel.
Et je leur disais, mais ici, je trouve qu'à Cambrai, les gens sont racistes, en fait. Et elle m'a sorti d'une façon très naturelle, oui, mais on est en sécurité ici. Pardon. Mais c'est des gens d'ici, en fait. C'est des gens d'ici, et on est en sécurité de quoi, en fait? Ça veut dire quoi?
Moi, je demande à mes enfants de faire attention. J'ai un grand garçon qui a 23 ans, et qui physiquement est grand en plus, qu'on voit, qui est identifié, qui est très typé. Alors, on l'est tous, hein, on l'est tous les trois, mais mon fils, on le voit arriver de loin, en fait. Et à chaque fois qu'il sort, j'ai pas l'esprit tranquille. Donc, je lui donne toujours des consignes. Alors, fais attention, quand tu sors, tu fais tout ce qu'il faut faire. Et surtout, si la police t'approche, n'essaye pas de parler justice, d'égalité ou contrôle faciès. Demande ta pièce d'identité, tu la lui donnes et tu ne poses pas de questions. Ne leur donne pas de raison de te mettre en garde à vue, ou surtout de te frapper.
Nathalie Théillot, présidente de la LDH et avocate, nous définit la pratique du contrôle au faciès.
En France, on appelle ça un contrôle au faciès, mais dans la littérature scientifique, on parle de profilage racial. Et en fait, il s'agit de contrôles de police qui soient discriminatoires au regard simplement de l'apparence physique d'une personne que l'on suppose être d'une minorité ethnique ou bien de nationalité. Voilà, donc on est sur de la discrimination puisque le principe d'égalité refuse qu'il y ait un contrôle ciblé, mais que ce soit sur des critères qui soient objectifs.
Ben, c'est mon petit frère, en fait. Il avait peut-être 13-14 ans. Il sortait du collège avec son ami et il rentrait à la maison, quoi. Et ils avaient leur sac à dos et ils se sont fait arrêter par la police. Et la police, elle leur a demandé leur papier d'identité, qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils avaient juste leur carnet de liaison de l'école. Donc ils les ont fouillés, ils les ont assis par terre, les deux assis par terre. Et puis ils ont donné leur carnet de liaison. Et je ne sais pas après comment ça s'est fini, ils les ont insultés. Et mon petit frère, il a toujours été marqué.
Quand nos enfants grandissent, on commence à avoir peur quand ils sortent. Et moi, ma première peur, en fait, c'est la police. Et le pareil, j'en ai un qui est plus jeune, là, qui a 15 ans. Depuis qu'il a sa carte d'identité, quand il sort, mon premier réflexe, c'est « Est-ce que tu as pris ta carte d'identité ?»« Ah non, j'ai oublié. » »« Non, tu sors pas sans ta carte d'identité. »
Anne-Claire Grandjean, chef du pôle régional des Hauts-de-France du Défenseur des droits, nous éclaire sur les statistiques concernant les cibles des contrôles au faciès.
Sur le sujet spécifiquement discriminatoire en matière de contrôle déontologique des forces de sécurité, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a rendu un certain nombre de rapports qui mettent en exergue que les contrôles, et notamment les contrôles au faciès, sont beaucoup plus risqués lorsque vous êtes un jeune homme entre âgés d'environ 16 à 25 ans, noirs, arabes ou maghrébins, puisque les rapports mettent en exergue qu'il y a 4 fois plus de risques de contrôle lorsque vous êtes une telle personne que n'importe quelle autre. Donc on voit bien effectivement que statistiquement, il y a bien un risque beaucoup plus important et que donc les contrôles qu'on dit être au faciès, évidemment, existe et il faut évidemment pas hésiter à saisir l'institution du défenseur des droits si vous êtes victime d'une telle situation qui n'est pas conforme au droit.
J'ai une amie, elle était mariée avec un Algérien, donc ses enfants sont typés. Et son dernier fils, qui a maintenant une quarantaine d'années, il est très souvent contrôlé. Et un jour, c'était à Arras, et il y a la police, et il s'était passé quelque chose, ils cherchaient quelqu'un de typé. Ils sont arrivés dans le café, ils ont regardé, il y avait lui, ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené au commissariat, il a dit « mais pourquoi vous m'emmenez ? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et ils l'ont tabassé. Le lendemain, la police, elle a appelé sa femme, et le commissaire, il a dit « vous pouvez venir chercher votre mari, mais il n'est pas en bon état ». Et il avait la mâchoire, je crois qu'il lui avait fracturé la mâchoire, il n'avait rien fait. C'est quelqu'un de bien, ils sont typés.
Evelyne Sirmarin, vice-présidente de la LDH et magistrat honoraire, nous indique comment porter plainte suite à des violences en garde à vue ou lors d'un contrôle au faciès.
On peut contrôler l'identité d'un citoyen, soit parce qu'il a commis ou va commettre une infraction, soit parce que le procureur de la République a ordonné dans le secteur des contrôles d'identité, ou pour une raison de prévention à l'ordre public. Et en cas de violence en garde à vue qui s'ensuit, il faut donc absolument porter plainte. Il faut porter plainte sur le site de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, ou l'IGGN pour la Gendarmerie Nationale, et appuyer donc sa plainte de preuve. Un certificat médical, s'il y a violence, doit être obtenu aux urgences médico-judiciaires, de l'hôpital principal de la région. Deuxièmement, des vidéos ou des enregistrements audio peuvent prouver les faits et également des témoignages. Par ailleurs, la Ligue des droits de l'homme demande des récépissés des contrôles d'identité pour pouvoir prouver que ceux-ci sont parfois abusifs envers certaines personnes. Mais c'est au législateur de voter cette réforme, comme il l'a fait en Espagne ou en Angleterre.
La LDH mène une campagne de lutte contre les contrôles discriminatoires à travers une enquête visant à rendre visibles ses conséquences au quotidien, sur le court et long terme, en recueillant le ressenti et les expériences des personnes qui en sont victimes. Le Conseil d'État, saisi en 2023, a admis l'existence d'une pratique des contrôles d'identité discriminatoires dit contrôle au faciès. Pourtant, il se déclare incompétent pour mettre fin à ce phénomène et ne reconnaît pas l'impact négatif de ces discriminations sur les victimes. Sébastien Rocher, sociologue spécialisé en criminologie, explique la manière dont les discriminations interviennent à différents stades des interactions avec les forces de l'ordre.
La discrimination ethnique par la police se joue à la fois lors des situations de contrôle par les policiers, mais aussi lors de la recherche de services. Lors des situations de contrôle, il y a trois niveaux de discrimination qui sont en général pas forcément tous bien vus. D'abord, la sélection des cibles, ce qu'on appelle le contrôle au faciès, le fait que si vous n'êtes pas blanc, vous êtes plus contrôlé que si vous êtes blanc, et surtout, vous êtes plus multi-contrôlé. Ensuite, la discrimination joue pendant le contrôle. Les personnes qui sont contrôlées, si elles ne sont pas blanches, elles vont faire l'objet d'un traitement plus défavorable, par exemple le tutoiement, mais par exemple aussi des fouilles beaucoup plus complètes. Et enfin, le dernier moment, c'est l'issue du contrôle. Et là, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui appartiennent à des groupes ethniques supposés extra-européens, ces personnes-là vont être plus souvent emmenées au poste de police, retenues contre leur volonté que les autres. Les discriminations raciales ou ethniques en France ont un caractère systémique qui est démontré. Comment ? Par la répétition des études depuis maintenant 15 ans dans toutes les villes de France où on a réalisé des études sur les personnes qui sont l'objet des contrôles d'identité multiples, c'est-à-dire le fait d'être multi-contrôlé, dans toutes les villes où on l'a fait, de Metz à Lille, à Marseille, en passant par Nantes ou Lyon, dans toutes les villes, on va retrouver ce phénomène de biais ethnique. Ce qui est particulier, c'est que le ministère de l'Intérieur est dans une position de déni de cette réalité, sans pour autant pouvoir produire d'éléments d'information, d'enquête, qui montrerait ou qui étayerait sa position. Bon. Et le caractère est systémique parce qu'on l'observe dans toutes les communes, d'une part, mais il est également systémique parce que sa correction dépend du fonctionnement des corps d'inspection de l'IGPN, de l'IGGN et des hiérarchies locales. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de précaution particulière qui est apportée pour corriger cette discrimination. Et on voit aussi que dans le mécanisme de sélection des agents, il n'y a pas de précaution particulière qui est prise par rapport aux attitudes racistes. Il n'y a pas dans la police française de sélection sur la base des biais, même parfois des biais inconscients dont sont porteurs les agents qui se portent candidats au concours de police, contrairement à ce qui est par exemple fait en Allemagne. Et donc tout ça fait que le mécanisme de contrôle discriminatoire se répète dans le temps.
Alors voilà, je suis un homme français d'origine marocaine, j'ai 25 ans, je suis interne en médecine générale. En hiver, lors de l'hiver 2022, c'était pendant la période Coupe du Monde, donc voilà, avec des amis on s'était réunis, de nombreux français d'origine marocaine notamment et autres d'ailleurs nous ont aussi rejoints lors de la célébration du match du Maroc, des célébrations respectueuses de l'environnement et de la circulation. C'était un moment riche en émotions, en ambiance, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, avec notamment un ami à moi. On s'écartait de plus en plus en fait, du lieu de célébration. Et en fait, ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'on a été très vite pris en tenaille, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on était repoussé par les forces de l'ordre, notamment les CRS, à base de gaz lacrymogène. Donc nous, bah, forcément, on s'en écartait, et puis de toute façon, on allait pour rentrer chez nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que notamment dans ce boulevard-là, de l'autre côté du boulevard, donc là où on se dirigeait, les CRS sont aussi passés par là, en fait. Donc venaient aussi de ce côté-là, et nous bombardaient aussi de gaz lacrymogène. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était vraiment pris en tenaille dans un boulevard où d'un côté, il y avait des CRS et du gaz lacrymogène, et de l'autre, de même. À ce moment-là, en fait, on se rendait compte aussi qu'il y avait notamment des perturbateurs, des, entre guillemets, casseurs. Sur le côté, en fait, il n'y avait pas de rue perpendiculaire, de rue adjacente, mais il y avait un bâtiment où notamment étaient réunis des femmes et des enfants qui avaient aussi participé aux célébrations. Et du coup, on les a rejoints dans ce bâtiment en attendant que tout ça se tarisse un petit peu. Voilà. Il y avait des casseurs qui s'étaient réfugiés. Et du coup, ils ont été très vite appréhendés par les forces de l'ordre, très très violemment. C'était vraiment très très violent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les forces de l'ordre, ensuite, ont continué leur chemin et ont commencé à appréhender tout le monde. Il y a un policier notamment, enfin du coup c'était plutôt un CRS qui a transmis comme message en criant voilà, qu'il y avait des femmes et des enfants et qu'il fallait en fait voilà, les faire sortir du bâtiment. Du coup c'est ce qui s'est passé, donc ils ont fait sortir les femmes et les enfants ensuite. Et ensuite bah, forcément il y avait aussi des hommes innocents tels que moi-même et mon ami qui étaient en pôle pour sortir avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a notamment un CRS qui m'a empoigné en fait au niveau du haut du thorax, très fortement, très violemment, en me poussant contre le mur, avec une violence inouïe, en me disant « voilà, toi tu restes là, comme ça », il le répétait assez violemment. Moi j'ai été pris de choc, hein, pris de court, j'expliquais au CRS qu'il y avait quiproquo, que moi je ne faisais pas partie des casseurs, et qu'ensuite voilà, on s'était réfugié ici avec les femmes et les enfants parce qu'on avait vu qu'il y avait des provocations assez hostiles et des rencontres entre les casseurs et les forces de l'ordre. Je expliquais que voilà, j'avais rien à voir avec tout ça. Des paroles complètement vaines que le CRS ignorait totalement en me disant, voilà, de manière assez violente, tu fermes ta gueule, ferme ta bouche, ferme ta gueule. Toujours en m'empoignant très fortement, hein, il ne me lâchait pas. Il y avait une pointe très forte, limite en train de m'étrangler, il ne me lâchait pas du tout. Et puis à ce moment-là, ils ont commencé à tabasser tout le monde. J'ai pris de violents coups, notamment de violents coups de matraque, etc., partout dans le corps. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester ici, hein, que je pourrais être blessé très, très gravement, que je pourrais même en mourir. Voilà. J'ai commencé à me défaire en fait, du CRS qui m'empoignait et me tabassait pour courir. En relevant ensuite ma tête à ce moment-là, j'avais en face de moi un CRS qui était en train de charger son plus gros coup de poing. Il y a eu un temps assez étrange, assez bizarre, où on se regardait droit dans les yeux, ça m'a vraiment marqué. Et en fait, pourquoi ça m'a marqué? Parce que ce regard était vraiment rempli de haine. Ces regards notamment remplis de haine et que je ne comprenais pas. Et puis j'ai réussi à sortir de ce bâtiment en courant du plus vite que je pouvais. Hein. J'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. J'étais vraiment traumatisé par la violence qui s'était déroulée sous mes yeux. Et j'étais triste de ne voir que mon ami n'avait pas réussi à me suivre. J'avais très peur pour lui. Puis c'est que quelques heures plus tard que j'ai eu un appel de sa part qui me disait en fait qu'il avait été encore plus grièvement tabassé que moi, et du coup grièvement blessé. Il avait en fait notamment un œdème volumineux au niveau de la tempe. En fait, il avait pris un gros coup à la tempe. Et ça aussi, ça m'a choqué, les coups violents et mortels qu'il donnait. Hein, parce que vraiment, il ciblait des zones très fragiles, très vulnérables, telles que la tête. Moi, je me protégeais la tête pendant que je m'enfuyais pour pas prendre de coups fatals à ce niveau-là. Lui, malheureusement, mon ami est parti aux urgences.
Ces expériences répétées ne sont pas anodines. Sébastien Rocher a notamment développé, dans plusieurs de ses ouvrages, l'impact social et politique des discriminations policières.
La pratique du contrôle apparaît tout à fait indispensable aux agents de police en France, et ils en réalisent environ 47 millions par an d'après la Cour des comptes. Mais la véritable raison de cette pratique, c'est une habitude administrative, c'est-à-dire que la police s'est orientée dans une relation à la population qui passe par la multiplication des contrôles qui sont vécus comme une manière d'affirmer un ordre policier sur certaines zones ou bien sur certaines populations. Et ce qui est assez dommageable, c'est que ces contrôles et ces multi-contrôles, en particulier des personnes d'origine étrangère ou d'apparence non blanche, eh bien ces personnes finissent par perdre confiance dans les institutions en général. C'est pas juste la perception de la police qui est dégradée lorsqu'on est maltraité, brutalisé, tutoyé, et ce de manière répétée, mais c'est la croyance dans les institutions publiques qui est affaiblie, parce que les policiers ou les enseignants, par exemple, sont la face vivante de l'État. L'État, c'est une abstraction, c'est une machine administrative, mais ce qui va faire qu'on va croire et qu'on va être attaché à la culture politique d'un pays, on va développer une culture civique, en fait, c'est la qualité des relations qu'on a avec les agents administratifs. Et quand, au nom de la loi, on est discriminé, mais à ce moment-là, on a beaucoup de mal à croire à la valeur de la loi, et on a beaucoup de mal à croire à la sincérité de ceux qui dirigent la police, qui sont les responsables politiques, et on a tout autant de mal à croire aux principes généraux qu'ils affichent, qu'ils mettent au fronton des établissements publics et qui accompagnent tous les discours politiques. Donc finalement, ces pratiques policières discriminatoires, elles détachent les jeunes de la citoyenneté.
Même quand les forces de l'ordre ne sont pas à l'origine des situations de discrimination raciale, elles peuvent les prolonger dans les commissariats de police en refusant d'accepter des plaintes de victimes.
Là, au commissariat de police, on ne m'a pas pris ma plainte une première fois. J'ai dû revenir 2 jours après, parce que j'ai ma mère qui m'a dit insiste un peu plus, parce que je ne connaissais pas les lois. Je suis repartie une deuxième fois. Là, j'ai eu un monsieur au commissariat de police qui venait de Roubaix et qui m'a pris ma plainte. Et qui n'était pas content, il m'a dit « Oui, je suis au courant que vous êtes venu il y a 2 jours, donc on n'a pas pris votre plainte. » Il m'a dit « Ce problème-là, je l'ai réglé en interne. » J'ai eu un point en moins, en fait. Il m'a rassurée, puisque me disant que « Ben voilà, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas passer les choses. » Il fait « Moi, j'en ai marre de voir ces situations-là. »
Donc on arrive dans le commissariat et bien sûr on est hyper mal accueilli par la DS qui est à l'accueil, hein, qui nous méprise encore une fois. Hein. Voilà, si j'avais, je sais très bien que si je n'avais pas le voile, je n'aurais pas été accueillie de cette façon. Sauf que voilà, j'ai fait des études de droit, je sais c'est ma langue maternelle, je sais m'exprimer. Donc et puis ensuite je suis reçue par le gardien de la paix qui pareil ne fait aucun effort. Il veut qualifier ce fait de conflit alors que je lui dis que moi je n'ai rien contre cette personne initialement. Je le tolère, il doit me tolérer. ne doit pas me foncer dessus. Donc je vois que je l'agace, alors il se met à me lister tous les motifs d'infraction. Et là, je lui dis encore une fois, ce n'est pas à moi de qualifier l'infraction pénale, c'est à vous, en fonction des éléments que je vous fournis, d'identifier en fait la bonne infraction. Et donc ensuite, il me dit, telle infraction, je ne sais plus c'est laquelle, ça vous convient? Non, c'est pas si ça me convient, c'est si ça colle à ce que moi je relate. Et donc voilà, et puis très mal conseillé, c'est une main courante, parce qu'une plainte, ça nécessitait de se mettre en action, et c'était pas le souhait. Donc voilà, je quitte le commissariat, et puis sur le conseil de sœur, je dépose plainte auprès du procureur de la République, et puis j'expose aussi comment on peut être accueilli en France, parce que on est tous égaux, c'est dans notre devise, et on est dans le cadre d'un service public, donc ils peuvent penser ce qu'ils veulent dans leur vie personnelle, voter pour ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas, je m'en fiche, mais ils doivent m'accueillir comme une Française, et pas comme une Française de seconde zone.
L'article 15-3 du Code de procédure pénale impose aux services de police ou de gendarmerie de recevoir toute plainte déposée par une personne se disant victime d'infraction. C'est un droit garanti par la loi, quelle que soit votre situation administrative, que vous soyez français, étranger en situation régulière ou irrégulière. Les policiers ou gendarmes ne peuvent pas refuser de prendre votre plainte pour enregistrer juste une main courante. Pourtant, la réalité est bien différente, et quand on se heurte à un refus de plainte, l'une des voies de recours peut être le défenseur des droits.
Donc le défenseur des droits est compétent en matière de déontologie des forces de sécurité publiques comme privées. C'est-à-dire qu'on peut être saisi de façon gratuite par toute personne qui pense avoir été victime ou éventuellement témoin d'une situation qui ne serait pas conforme aux obligations déontologiques que doivent respecter les agents que sont par exemple les policiers de la police nationale, de la police municipale, les surveillants pénitentiaires, les CRS ou encore n'importe quel agent de sécurité privée qui œuvrerait par exemple dans un magasin ou dans une boîte de nuit.
Nous vous rappelons qu'il est aussi possible de porter plainte en adressant une lettre au procureur de la République. Si vous voulez lutter avec nous contre les contrôles aux faciès, partagez vos témoignages et participez à notre enquête. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse lille@ldh-france.org. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet en apportant leur perspective. Merci aux centres sociaux partenaires. Et merci infiniment à tous ceux qui ont partagé leur vécu pour rendre possible cet épisode. Si vous êtes victime ou témoin de racisme, d'antisémitisme ou d'islamophobie, appelez le défenseur des droits au 39 29. Ce projet est soutenu par la DILCRA et réalisé en partenariat avec Radio Campus, Radio Moulin, MIT FM et Pastel FM. Luttons ensemble contre l'invisibilisation et la banalisation des racismes.